Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Quand t'as rien, tu peux t'en sortir. Et t'es même mieux quand t'as rien, quand t'as des choses. Question de point de vue, mais en tout cas, moi, ça m'a fait comme ça. Me dire, bah tiens, j'avais rien, j'avais pas de possession, j'avais pas d'inquiétude par rapport à tout ça, je me sentais vraiment bien, libre. Et j'étais au même niveau que n'importe qui que je rencontrais.
N'importe où la peau change de couleur.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et ce soir sur RTL, on part en voyage avec Julien Clerc, évidemment, mais surtout avec notre invité Benjamin Lesage. Un voyage pas comme les autres, sans argent, sans un sou en poche. Bonsoir Benjamin Lesage.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir.
On vient de vous entendre dans la mise en onde de notre réalisateur André Facetta. Vous avez quel âge, tiens, pour commencer?
30 ans.
30 ans. En janvier 2010, vous décidez de partir avec deux amis, Raphaël et Nicolas. Vous étiez étudiants tous les trois, c'est ça?
Oui, on terminait nos études aux Pays-Bas, dans une école d'études européennes à La Haye.
D'accord, vous êtes rencontrés, le système Erasmus, c'est ça qui
voilà,
permet
ouais.
des étudiants
de
choisir leur ouais. université. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous, faut qu'on sache avec qui on part en vacances et qui on part en voyage là. Donc Benjamin, vous êtes là, vous êtes assez grand, élancé, barbu, des lunettes, voilà, brun.
Avec Raphaël, un t-shirt Peace and Love quand
voilà,
même, faut le dire.
Raphaël et Nicolas, est-ce que vous pouvez nous les décrire physiquement, leur caractère?
Oui, ben ils sont grands comme moi, c'est assez marrant parce que je suis brun, Nicolas est roux, Raphaël est blond. Mm-hmm. Raphaël est une pile, il a toujours plein d'idées, plein la tête. Nicolas est très créatif, il fait des photos, des films. Et moi, je suis plutôt pragmatique, mais donc on faisait un trio qui se complétait bien pour organiser des événements et on s'occupait déjà de l'organisation étudiante avant de partir. Et ce voyage, c'était en fait un projet qu'on voulait monter pour l'organisation étudiante.
Donc c'est une expérience, c'est ça? Vous êtes dit,
oui,
comment on peut faire pour partir sans argent? Vivre sans argent?
On voulait faire un voyage écologique. À la base, c'était le voyage le plus écologique qui soit. Et l'idée, c'était donc de partir. On a acheté des panneaux solaires. On voulait tout faire en stop. Et l'idée de sans argent était venue avec cette idée de consommer le moins possible. Et pour se forcer à ne pas consommer, à récupérer que les choses que la société jette, eh ben, on est parti sans un sou.
Alors, on va commencer ce voyage avec vous, Benjamin Lesage. Votre objectif, c'est de rejoindre le Mexique, mais pas n'importe comment. Vous partez vraiment sans argent?
Alors, on avait des petites réserves. Je crois que Raphaël avait une trentaine de dollars et on avait nos cartes bancaires au cas où. Parce qu'on s'était dit on s'était dit qu'on l'utiliserait si on avait besoin de visa ou s'il y avait une urgence.
Donc, en gros, vous partez avec 30 euros.
30 dollars, ouais, qu'on pouvait même pas utiliser en Europe, mais
faire
ouais,
la haie Mexique, hein, quand même.
Et vous faites comment, alors?
Pour voir l'ampleur du défi.
On a commencé, c'était assez rude le début, on est parti en stop des Pays-Bas, la première journée a été très galère, la première nuit aussi, et on a découvert ce que c'était que la faim, que de se retrouver paumé dans les rues, et d'attendre en hiver sur les routes, mais bon, c'était le rodage, et ça a bien fonctionné finalement.
Dire que pour faire la haie Mexique, vous mettez combien de temps, en fait?
Ah là, ça nous a pris environ un an pour le faire, ouais.
Ah oui.
On a du temps devant nous.
C'est pas cher,
22,
mais c'est long, quoi.
Jusqu'à 22 heures, donc 40 minutes pour une année de voyage. Et vous allez voir, ça va être passionnant. La première nuit, ça se passe où et comment, alors?
La première nuit, ça se passe à une cinquantaine de kilomètres de La Haye. Donc, le premier jour n'a pas été très efficace, on va dire, au niveau du stop. Et on s'est retrouvés paumés dans un petit bled au sud de Rotterdam. Donc, on cherchait un endroit pour dormir. Il faisait vraiment très froid. On a trouvé une cage d'escalier. C'est là où on a passé la nuit. Donc, ça a été le baptême du feu, comme on peut dire.
Vous aviez quoi dans votre paquetage?
On n'avait pas grand-chose. On avait 10 kilos chacun. On avait un sac à dos solaire qu'on avait acheté. On avait quelques habits.
Un sac à dos solaire?
Oui, il y avait un panneau solaire sur le dos du sac à dos. C'était pour recharger les appareils photo. On ne voulait pas utiliser d'électricité. On n'avait aucun moyen de se connecter. C'était tout avec le solaire ou pas.
Est-ce que vous aviez un sac de couchage solaire?
Oui, on avait... Non, pas solaire, mais...
Lunaire?
On avait un sac de couchage, mais ils étaient très fins. Donc, en fait, ils n'ont pas été très efficaces jusqu'à ce qu'on arrive au Maroc. Mais...
Ah, donc vous avez eu froid dans les premiers...
Ah oui, la première nuit, c'est...
C'est plus dur, ça?
Parce que vous partez en hiver, c'est ça?
Voilà, le 19 janvier, ouais. Oui, je me rappelle très bien de cette nuit. Tu dors 10 minutes et puis après tu te réveilles, puis tu redors 10 minutes.
D'accord.
Et puis tu essayes de te mettre en boule.
Et vous disiez que vous avez expérimenté la faim, ça c'est dans les premières étapes en France, parce que vous trouviez rien à manger, tout simplement?
Oui, et aussi parce qu'on savait pas trop comment faire. Donc déjà on est sur la route, sur les autoroutes, il n'y a pas beaucoup d'options pour manger. Dans les stations essence, on essayait de récupérer, on est allé voir dans les McDonald's, tout ça. Mais,
récupérer, ça veut dire fouiller les poubelles?
Voilà, ou demander directement s'ils avaient des restes. Donc ça, forcément, ils te les donnent jamais. Et aussi, on regardait dans les poubelles. Ça nous arrivait de trouver quelque chose, mais rarement. Donc c'était surtout de l'inexpérience et le fait d'être toujours sur la route. Donc on n'avait pas grand-chose à manger. Et oui, c'était la première fois qu'on était dans une situation où on ne pouvait pas se nourrir comme on le voulait.
Benjamin Lesage, vous racontez votre histoire dans un livre « Sans un sou en poche » publié aux éditions Artaud. Et vous racontez notamment cette arrivée à Barcelone. Première dispute avec Nicolas, votre pote italien. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ?
Oh, c'est une dispute très bête, mais donc il avait gardé un téléphone portable avec lui, avec un petit peu de crédit au cas où.
En cachette ?
Non, il nous l'avait dit, mais nous on voulait pas. Mais bon, voilà, chacun est libre. Donc on a dit ok. De toute façon, on savait qu'il pourrait pas l'utiliser très longtemps. Non, arrivé au Maroc, ça fonctionnerait plus.
Plus de batterie ?
Ouais, et puis pas de réseau, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, là, il voulait appeler parce qu'il avait peut-être un ami à Barcelone. Et c'est là où on a dit, bah non, si on veut le faire sans argent, il faut, même si on a la carte bancaire dans le sac, il faut qu'on soit cohérent, qu'on vraiment, on essaye de ne pas en utiliser.
C'est côté, vous le jusqu'au boutiste de la vente.
Il y a un côté radical, quoi.
Oui, très radical. Bah, c'était, on avait vraiment envie de l'expérimenter, on avait envie de se prendre des claques.
Mais pourquoi vous faites ça, Benjamin Lesage? Vous refusez quoi, la société de consommation?
Il n'y avait pas une pensée très établie à la base, mais il y avait quand même comme une envie de tout lâcher, vraiment de tout lâcher. Donc on pourrait parler de déconditionnement, mais c'était pas très réfléchi sur le coup. C'est vraiment, on avait envie de partir et d'expérimenter des choses qu'on n'avait jamais expérimentées, de vivre vraiment, de vraiment vivre quelque chose de fort.
Alors l'Espagne et puis le Maroc et puis évidemment beaucoup d'autres pays vont vous offrir et donc nous offrir ce soir sur RTL de drôles de rencontres. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
C'est un voyage extraordinaire que l'on vous propose ce soir. Tiens, est-ce que vous seriez capable de faire ça un an sur les routes, par bateau, pour rejoindre, sans un sou en poche, le Mexique?
C'est ça qui est compliqué, c'est sans un sou en poche.
Passionnant, bah oui. C'est l'idée folle et incroyable de notre invité Benjamin Lesage. On est parti avec vous et vos deux copains. Alors, il y a Nicolas qui est
italien
et, rappelez-nous,
Raphaël qui est allemand de Berlin.
Raphaël qui est allemand. Vous êtes partis tous les deux de La Haye aux Pays-Bas. Nous sommes arrivés en Espagne. Vous êtes arrivés en Espagne tous les trois. L'Espagne, c'est important pour vous, c'est une étape importante. Vous découvrez des mouvements alternatifs là-bas?
Oui, c'est vrai qu'en Hollande, il n'y a pas beaucoup de mouvements alternatifs. En France, il y en a pas mal, mais donc on n'est pas passé par là. Et c'est en arrivant à Barcelone qu'on a été un peu choqué par l'effervescence qui se passait là-bas. Donc énormément de gens qui sont habitués à squatter, donc à occuper des maisons abandonnées. Donc dès les premières nuits, justement, après le souci du téléphone, on a dit non, on va trouver un autre moyen. On a rencontré un Italien qui nous a amené chez lui.
Parce que vous n'utilisez pas de téléphone, c'est ça l'idée, hein?
Dans le voyage, oui, de toute façon, un téléphone, ça se paye. Et puis, on voulait vraiment voyager librement, suivre le destin. Et le destin, ce soir-là, nous a amené dans l'appartement d'une petite vieille qui était décédée il y a quelques mois auparavant. Et donc, cet Italien occupait le lieu, le squattait. Donc, on a vécu là pendant 3-4 jours. On a rencontré plein d'autres gens qui vivaient aussi en squat, qui récupéraient la nourriture, qui allaient à la fin des marchés, qui...
Donc, ils vous donnent des trucs, c'est ça, pour vous apprendre à manger gratos?
Exactement. Ils avaient toute une liste où ils nous disaient à telle heure, il faut aller là. Ils nous ils nous ont montré aussi que c'était bien qu'on parle avec les gens. Donc, on a échafaudé à nous trois un petit discours. Pour expliquer notre voyage, qu'est-ce qu'on faisait, et d'une manière aussi justifier pourquoi est-ce qu'on demandait de la nourriture, parce que trois Européens, un blond, enfin allemand, italien, français, a priori, on n'est pas censé être pauvre, donc pourquoi est-ce qu'on voyage sans le sou?
Benjamin Lesage, il y a peut-être certains de nos auditeurs qui sont un peu choqués par le discours de c'est facile, on trouve un appart, la propriétaire est morte il y a quelques mois, on squatte. Il faut dire que la loi espagnole est un peu particulière en la matière, c'est-à-dire si le propriétaire ne fait rien, on a le droit de squatter, c'est ça ou pas exactement? Comment ça se passe?
Bon, après, c'est toujours une question, il y a toujours la légalité et la légitimité, non? C'est vrai qu'il y a Barcelone, donc l'Espagne en général, la loi est à peu près la même qu'en France, la même que dans tout le continent européen, enfin toute l'Union européenne. Mm-hmm. Mais en Espagne, ce qui est critique, c'est le nombre d'habitats abandonnés. Et donc à Barcelone, il y a des milliers sûrement d'appartements, de maisons qui sont à l'abandon, qui ne sont pas occupés, qui ont été achetés des fois pour spéculer. Donc dans ce cas-là, c'était pas le cas, mais il y a énormément de quartiers complètement abandonnés à cause de la spéculation. Et donc c'est vrai que le droit espagnol tolère l'occupation sous certaines conditions. Alors bien entendu, si le propriétaire proteste, eh ben les occupants sont obligés de partir, la police peut intervenir et tout ça. Si le propriétaire ne proteste pas, il reste.
Et ça vous est arrivé aussi à Tarragone, c'est ça ?
Tarragone, c'était vraiment intéressant.
Alors là, c'est un squat particulier, là. Qu'est-ce qui se passait ?
Mais il y a beaucoup de squats comme ça, mais il y a vraiment une justification derrière. C'était presque un palace au-dessus de la ville qui était abandonné, qui était bien trop cher pour être vendu. Et donc, ils sont rentrés dans cette grande maison, un groupe de jeunes. Et ils ont ensuite pris contact avec le propriétaire. Et le propriétaire a accepté qu'ils occupent l'espace, qu'ils le transforment en centre social, en échange de garder l'endroit propre.
Alors Benjamin, avec vos deux comparses Raphaël et Nicolas, une fois que vous êtes en Espagne, vous dites bon maintenant, il y a toujours le Mexique quand même en ligne de mire. Vous passez au Maroc, on n'est pas arrivé. Et là au Maroc, vous découvrez quoi ? La générosité ?
Oui, ça a été un choc culturel réel. Oui, quand on est arrivé au Maroc, donc déjà plein de préjugés avant d'arriver au Maroc, parce qu'on ne sait pas où on va, et puis on ne sait pas comment sont les Marocains. On en connaît certains en France, mais on n'était pas très accoutumés avec cette culture. Et ça a été un grand choc de se retrouver dans un endroit où dès qu'on avait besoin d'aide, il y avait quelqu'un qui était là pour nous tendre la main, pour nous inviter chez lui, pour nous prendre dans sa voiture. Et d'une générosité, c'était toujours de nous donner à manger. On pouvait rester le temps qu'on voulait. C'était vraiment un accueil très différent de celui qu'on pouvait avoir en Europe.
Ça veut dire quoi ? Salam alaikum, c'est pas seulement une formule de politesse, c'est ça ?
Oui, non, c'était chouette. Bon, tout le monde le connaît, mais c'est vrai qu'on oublie parfois
ça
que.
Ça veut dire quoi, d'ailleurs ?
C'est que je viens vers toi en paix, donc c'est que je t'accueille aussi en paix. Donc il y a vraiment toute une signification de salam alaikum, c'est vraiment je t'accueille, tu es un frère, tu peux venir chez moi. Et donc c'est un sens très fort.
Au Maroc, vous avez fait la rencontre de Moussa qui vit près de Rabat. Il va vous surnommer tous les trois les rois mages. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, Moussa, c'était assez incroyable. Ouais. À la sortie d'une ville de Fès, il nous a pris en stop alors que c'était la pleine nuit, il ne nous voyait pas, il s'est quand même arrêté. Il nous a amenés chez lui, c'est un camionneur. Et il a insisté pour que nous restions chez lui, il nous a laissé son appartement complètement pour lui. Il est allé vivre dans l'appartement de la mère de sa femme. Et donc pendant 3 jours, ils nous ont servi des tagines, des petits déjeuners. Ils ont vraiment insisté pour qu'on mange. On voulait les aider, on n'avait pas le droit. Et au 3e jour, d'un coup, il est rentré pour nous dire que sa femme venait d'accoucher. Alors qu'on savait même pas qu'elle était enceinte. Et qu'il voulait qu'on aille voir avec l'hôpital. Donc dès le premier jour de cet enfant, on s'est retrouvé à l'hôpital. Il a insisté pour qu'on le prenne dans nos bras, qu'on lui dise des paroles en allemand, italien, français. Et pour lui, c'était ça. On était les rois mages qui étaient venus annoncer la naissance de son fils, Yahya, qui veut dire l'élu en arabe, non ?
C'est magnifique.
Ah, c'est une très belle histoire. Toujours au Maroc, Benjamin Lesage, il y en a plein des histoires. Là, on peut dire que vous avez vécu, mais littéralement, une traversée du désert, parce que vous avez traversé le désert. Vers quelle ville vous vouliez aller
On voulait aller à Laayoune.
C'est où Laayoune ? C'est dans le Sahara, c'est ça ?
Oui, c'est le Sahara occidental. Ouais. Donc on est allé vers là-bas, parce que jadis, il y avait un ferry qui faisait le voyage de Laayoune jusqu'aux îles Canaries.
Ah donc, vous avez cet objectif en tête, vous montez dans une Mercedes. Alors ça, j'ai adoré ça dans votre livre publié chez Arto. Combien de kilomètres au compteur, la Mercedes ?
Ah oui, ouais, elle arrivait presque à, je sais plus, c'est 3 millions,
3
1 million,
millions,
mais c'est,
3 millions,
c'est assez commun là-bas. Oui, ils les appellent les zombies. Ouais, les Mercedes 220 ou 240 qui parcourent l'Afrique, en fait.
Et elle vous mène, cette Mercedes, au ferry, sans encombre, Benjamin ?
Elle nous amène jusqu'à El Ayoun, donc le chauffeur, bien entendu, nous invite chez lui, nous offre à manger. Il n'est même pas question de refuser. Le lendemain, on va jusqu'au port de Laayoune et on se rend compte qu'il n'y a plus de ferry depuis quelques années, parce que depuis la crise, les Espagnols ont coupé la ligne.
Vous auriez tapé ça sur Internet, vous auriez su
Peut-être, ouais. Après, c'est vrai que les informations, on était encore très naïfs à cette époque-là. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ferait la même erreur.
Donc, quand on part sans sou, il faut quand même avoir beaucoup de temps. Le droit de se tromper, finalement.
Vivre sans argent, ce n'est pas compliqué si on a tout le temps devant soi.
À la fois, si on ne travaille pas, on a du temps, donc on peut vivre sans argent.
Exactement.
Mais ça peut fonctionner. Non, mais moi, je me projette un peu là, Thomas.
Ah, vous voudriez partir ? J'ai encore besoin de vous jusqu'au mois de juillet.
Allez, je vais essayer samedi, dimanche déjà.
Au moins, parce que l'émission marchant bien, on ne sait jamais. On sait jamais. Benjamin Lesage, vous allez continuer de nous raconter ce voyage extraordinaire, sans un sou en poche, avec ce slogan en quelque sorte : vivre fauché, mais vivre libre. C'est le titre du livre que vous publiez chez Arto. Il va falloir maintenant traverser l'Atlantique. Forcément, vous voulez aller au Mexique, ça se complique.
Il n'y a pas de ferry, alors.
Oui, ça se complique.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h.
Ça m'a vraiment plu, cette idée de on vit au jour le jour, avec une vision, avec des projets, tout ça, mais sans avoir ces préoccupations de qu'est-ce que je vais faire demain.
Et le voyage en solitaire.
La curiosité est un vilain défaut.
Pour moi, c'est la conviction, ça fait que cette foi, cette confiance, elle fonctionne quand je suis à fond là-dedans. Si d'un coup j'ai un compte bancaire ou une sécurité, ça marche plus, parce qu'avec la sécurité, t'as les préoccupations qui reviennent.
Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
François Hardy, Jacques Dutronc qui partent en voyage. Nous aussi, on est partis en voyage.
Il n'est pas solitaire, notre
avec, avec Benjamin Lesage. En 2010, vous lancez ce défi avec deux potes étudiants, Raphaël, l'allemand, le berlinois et l'italien Nicolas, en direction du Mexique. Vous êtes partis de La Haye, Pays-Bas, je le rappelle. Donc là, on vous reprend aux Canaries, avril 2010. Votre objectif, c'est de trouver un bateau pour traverser l'Atlantique. Déjà, avril 2010, c'est la bonne saison?
Non, c'est pas la bonne saison. Oui,
il y a une saison.
Il y a une saison, oui. Ben, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui traversent l'océan en bateau. On peut compter entre 500 et 700 voiliers qui font le voyage. En général, ça commence à peu près en novembre, après la saison des ouragans, jusqu'en janvier, février. Donc nous, c'est vrai qu'on est arrivé un petit peu tard.
Donc il n'y avait pas beaucoup de bateaux qui partaient, c'est ça?
Il y avait beaucoup moins de bateaux, mais il y en a quand même. Il faut juste être patient. Et jusqu'à juin, juillet, c'est possible de trouver un bateau.
Et je rappelle que vous n'avez pas un sou en poche, donc il n'est pas question de payer la traversée. Comment vous faites?
Ah oui, non, bah on a attendu 2 mois aux îles Canaries, donc ça a été...
Vous avez attendu 2 mois un bateau?
On a attendu 3 semaines un premier bateau qui nous a amené d'une île Canaries jusqu'à une autre, et ensuite 1 mois et demi pour le deuxième bateau.
Vous êtes du genre patient aux arrêts de bus, vous, alors?
Ah, maintenant, aujourd'hui, oui. Bah, la patience est un des grands enseignements de ce voyage. Oui.
Le calme et la patience. Combien de temps... donc, il y a un voilier qui
vous embarque.
Qui vous embarque, et combien de temps va durer la traversée?
Alors, la traversée des îles Canaries jusqu'au Brésil, c'est deux Italiens, deux capitaines italiens qui partaient jusqu'au Brésil et donc qui cherchaient un équipage. Donc, comme ils le disent eux-mêmes, ils cherchaient des filles, mais il n'y en avait pas.
Ils tombent sur 3 mecs.
3 mecs barbus, ouais, mais ils ont finalement accepté de nous prendre. C'était la première fois qu'ils prenaient des bateaux stoppers, donc c'était une expérience nouvelle pour eux. Ils se sont lancés dans le bain.
Alors, il y a des photos dans votre livre publié chez Artaud. Il y en a une vraiment sympa où, j'imagine, vous êtes sur ce bateau au large des côtes du Brésil. C'est Raphaël qui prend la photo. Il est suspendu dans les airs, c'est ça?
Exactement, ouais. Avec une espèce de balançoire qu'ils attachent au-dessus du mât.
Ouais.
Donc après, avec l'inclination du bateau, la balançoire recule un peu et donc il a pu prendre cette photo. Hein.
Mais ils vous ont fait travailler, les skippers, vraiment?
Travailler, c'est un grand mot, mais on va dire que oui, on a nettoyé avant de partir, on a lustré tout le bateau et en arrivant, on a aussi nettoyé le bateau et surtout la coque. C'est assez fastidieux à faire, il faut aller en apnée et gratter la coque du bateau.
Donc vous avez un petit peu en quelque sorte payé votre voyage. Il y a souvent eu des trocs pendant cette année de voyage sur terre et en mer pour réussir à avancer, pour convaincre des gens de vous accueillir chez eux ou de...
Oui, il y a eu souvent...
En voiture ou en camion.
On a énormément proposé. Souvent les gens voulaient juste nous donner un coup de main. Dès qu'on restait dans un endroit, on entrait justement plus dans cette idée, si on restait plus de quelques jours, on commençait une idée d'échange. Donc là on aidait, souvent on donnait des cours d'italien, d'allemand, d'anglais, d'espagnol, où on nettoyait. Donc ça nous est arrivé de travailler dans des auberges de jeunesse et après ce sera plus tard au Mexique où on a vraiment commencé à travailler vraiment pour le logement et la nourriture.
Et puis lors d'une de ces nuits sur ce bateau, sur ce voilier, avec Raphaël, vous faites un serment, lequel?
Ouais, ça a été un peu comme une révélation. Ben, grâce au Maroc et grâce surtout à ce voyage, on s'est rendu compte que cette expérience de voyage écologique allait bien plus loin que ça. C'était vraiment une sorte de voyage initiatique. On était en train de découvrir qu'il y avait un monde nouveau, que quand on n'a pas d'argent, quand on fait confiance à l'humain, eh ben, les barrières s'ouvrent, les relations sont vraiment différentes et on avait envie d'expérimenter ça un peu plus. Donc on s'est vraiment promis à ce moment-là de pas faire semblant, de continuer à vivre sans argent, mais pour de vrai et pour plus longtemps.
Et c'est ce que vous avez fait?
Et on l'a tenu, ouais.
Ouais, c'est parce que c'était en 2010, on est en 2015 et vous continuez d'être dans cette logique. On pourra raconter tout à l'heure ce qui est votre projet. Mais ce voyage, c'est pas un lit de rose, hein. Il y a des galères quand même, notamment pendant cette traversée de l'Atlantique. Il y a eu des avaries, par exemple?
Ah oui, ben, il y a eu une grosse tempête. Il y a un des capitaines qui a failli passer par-dessus bord. Il y a le mât qui s'est un peu tordu. Il y a une des grandes voiles qui est passée sous le bateau et qui s'est entourée autour de l'hélice. Enfin oui, ça a pas été... Il y a eu des petits conflits personnels aussi, parce que 5 mâles sur un bateau, c'est pas toujours simple.
Et pas une fille.
Ouais.
C'était ça le problème.
Quel type de conflit, les skippers qui disaient quoi? Qui disaient, vous n'avez pas payé les garçons, c'est ça?
Il y avait donc Marco et Francesco. Francesco est originaire de Sicile, d'une famille très pauvre. Lui, il adorait ce qu'on faisait. Et Marco est originaire de Milan, d'une famille très riche. Et il pensait qu'on était que des profiteurs et que ça servait à rien ce qu'on faisait.
Ah, donc c'était politique le conflit, presque?
Ah oui, principalement. Bah, pour lui, il avait un peu raison, parce qu'on disait qu'on voyageait sans argent. Et lui, il avait beaucoup de frais pour un bateau, ça coûte cher.
En fait, vous voyagiez avec son argent.
Exactement, c'est d'accord. Ce qu'il nous disait. Il n'avait pas tort.
Alors, Benjamin, vous arrivez au Brésil. l'accueil est d'abord très chaleureux, mais une nuit, vous êtes attaqué par une bande de drogués. Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Oui, on a fait un mauvais choix stratégique, donc on s'est retrouvé à devoir dormir en plein centre-ville une nuit. Donc on dormait dans un endroit qu'on pensait sûr parce qu'il y avait des ouvriers à côté.
Vous êtes dans quelle ville ?
À Recife, qui porte bien son nom pour nous. Et donc ouais, il y a eu deux petits jeunes, ils devaient avoir 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça, qui sont arrivés le matin, ils étaient shootés à la colle.
Oui, des enfants.
Ouais. Et c'est je me suis réveillé quand ils essayaient de tirer mon sac. Et donc après, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était pas très grave, ils sont juste partis en disant qu'ils allaient nous tuer. Après, on a entendu la police. Donc bon, ça nous a fait un peu peur, mais c'était des enfants. Mais c'est vrai que ça a été un gros choc. Et Nicolas, ça a été le choc de trop.
Ça a été la nuit de trop. Qu'est-ce qu'il décide de faire?
Nicolas, à ce moment, décide d'arrêter le voyage. Ouais. C'est pour lui, ça l'intéressait pas de souffrir.
Est-ce qu'il a eu peur? Vous avez eu très peur?
C'était pas tant ça, c'était plus que c'est vrai que Raphaël et moi-même étions dans une démarche, on voulait se prendre des claques, on voulait quelque part souffrir, on voulait vraiment aller au bout de nos limites. Et Nicolas, ça l'intéressait pas de faire ce voyage pour ça.
Donc là, vous n'êtes plus que deux à ce moment-là.
Et les limites, ça continue puisque quelques jours plus tard, je crois que près de Recife, vous faites tout voler, c'est ça ?
Oui, on s'est retrouvé bloqué dans une station essence pendant 2-3 jours et troisième nuit, le quatrième matin, quand je me suis réveillé, mon sac avait disparu. Oui. J'ai mis du temps à découvrir que c'était. Il y avait plein de choses. Donc, il y avait un ordinateur, l'appareil photo, des choses qu'on avait prévues pour faire. On voulait faire un documentaire au départ. Mais il y avait surtout le passeport, il y avait toutes mes notes, des trucs très bêtes, mais le sac de couchage, les brosses
c'est
à dents.
Vous n'aviez plus rien, là.
Voilà, ouais. La carte bancaire aussi qui s'est envolée avec.
Et vous avez fait des démarches pour refaire des papiers, ou vous vous êtes dit, c'est le destin?
Sur le coup, on pouvait pas faire grand chose. Donc, ça a été très dur sur le coup. Je me suis senti, que c'était quand même un peu dangereux. Et petit à petit, ça a été une autre révélation de se rendre compte que c'était quand même assez agréable. De se retrouver dans une situation, j'étais plus hypocrite d'un coup. Je me disais, vraiment, là, je voyage sans argent, j'ai pas d'autre solution. Et ça a été pour moi très libérateur. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire de voyager sans argent.
Dans les galères que vous avez rencontrées, les avaries sur le bateau, il y a eu aussi des trajets dans la jungle, bloqués après des jours et des jours de pluie, c'est ça?
Oui, c'est arrivé aussi un peu plus haut. Ça, c'était dans le nord du Brésil, aussi en Guyana, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé au Costa Rica, c'était la saison des pluies. On est arrivé en juin et juillet, août, on arrivait à une saison des pluies qui était assez conséquente.
Bon, on n'est toujours pas arrivé au Mexique.
On
est encore au Brésil, donc il y a un peu de route encore. Restez avec nous pour avoir la fin du voyage.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir, on est sacrément curieux de l'aventure vécue par notre invité Benjamin Lesage, qui peut voyager, faire le tour du monde en étant libre et surtout sans un sou en poche. On en est un peu baba, hein, Thomas.
Baba, oui.
Vous publiez un livre, vous racontez votre expérience dans un livre publié chez Artos, un voyage qui a duré un an en 2010. Vous êtes parti des Pays-Bas pour rejoindre le Mexique. Un an sans donner des nouvelles à votre petite maman ?
Non, si, on écrivait des emails de temps en temps, on devait être peut-être un par mois ou quand on arrivait à se connecter, donc pas assez souvent sûrement pour elle, et souvent c'était des mails qui très euphoriques de notre part et qui pour elle ne faisaient que l'inquiéter. Mais
comment ils ont vécu ce voyage, vos proches?
J'ai su après que bien, ils nous encourageaient, mais je pense que ma maman a eu aussi très peur.
Question soufflée par notre producteur Gérald Chaland, il y en a une autre soufflée par notre réalisateur André Facetta, et les filles?
Et les filles?
Alors, ils sont intégrés au voyage. Il y a d'abord eu Nieves qui est arrivée, donc Nieves qui est la compagne de Raphaël. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu mon ex, à l'époque Camille, qui nous a rejoint à un moment donné en Colombie. Nieves arrive en Guyana.
Et c'est qui plus ont terminé l'aventure. Avec les filles?
Ah oui, complètement. Le voyage a changé. C'était presque trop facile pour nous. Et c'est vrai que c'est pas la partie du voyage la plus intéressante pour à raconter, parce que tout le monde nous donnait à manger, tout le monde nous prenait en stop, les pompiers nous invitaient pour qu'on dorme dans leur caserne.
C'est super d'être une fille, hein.
C'est sûr que les filles en général ont peur de faire ce genre de voyage, mais celles que j'ai rencontrées qui le font, c'est sûr que c'est peut-être plus simple au final.
Mais vous avez croisé des filles qui faisaient ce genre de voyage seules?
Il y en a une qui a fait le tour de l'Afrique à pied, d'autres personnes qui ont fait le continent américain en stop, deux filles. Enfin oui, les femmes peuvent le faire autant que les hommes, c'est sûr.
Bien sûr.
Alors vous êtes rejoint...
faut pas faire de mauvaises rencontres.
Ben non, par une fille qui s'appelle Nieves. Elle va craquer en Colombie, elle va vous laisser tomber ?
Non, elle nous laisse pas tomber, non. Elle a craqué parce que c'était difficile. On va dire que quand elle est arrivée, on était vraiment... on dormait dans la rue, on s'est retrouvés en Colombie, dans des villes qui sont soi-disant très dangereuses, à dormir sur le trottoir. On mangeait pas forcément toujours bien. Même si tout était plus facile, il y a quand même eu des moments de galère. Hein, faut pas...
Les pays les plus dangereux, c'est par là, la Colombie, le Honduras aussi, vous avez...
Oui, on dit que c'est les plus dangereux, mais c'est les pays où on a été le mieux accueillis.
C'est vrai ?
À Honduras, c'est sûrement là où l'autostop a été le plus simple. Et, c'était, oui, c'est une expérience exceptionnelle.
Mais vous racontez quand même quelques rencontres particulières. Il y a un lieu, vous arrivez à l'accueil, ils ont un pistolet à la...
Ah oui, après les armes sont omniprésentes. Et il y a beaucoup de peur. Ce sont des pays où la peur règne un petit peu partout. Oui. Mais si on arrive à faire confiance et puis qu'on ne se focalise pas sur la peur, je pense qu'on arrive à rencontrer de bonnes personnes quand même.
Bon, vous arrivez enfin au Mexique, le but du voyage, après... Combien de kilomètres, tiens, ça
On avait fait le compte, je crois que c'était 24 000 kilomètres jusqu'au Mexique à peu près. Ouais.
Et le bilan carbone, il était bon, puisque le point de départ, hein, on s'en souvient, c'était de faire un voyage.
On avait commencé
écologique.
À le calculer, et après on avait arrêté, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait un bilan carbone total. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il est difficilement battable.
Est-ce que vous avez fait vos comptes bancaires quand même? Parce que vous êtes parti avec quelques euros, vous en avez peut-être gagné quelques-uns, je ne sais pas.
Non, gagné, non, on a toujours refusé l'argent. On nous a offert beaucoup d'argent, mais à chaque fois, on a dit non. Et on a dépensé, oui, je crois, 42 euros pour le passeport, 20 euros pour le visa au Suriname.
62, d'accord.
Quelques autres dollars au Nicaragua pour passer au Nicaragua depuis le Costa Rica, et c'est tout, ouais.
Donc vous vendez un voyage visas, à 100 euros d'un an, c'est ça, une sorte de tour du monde, c'est incroyable.
Il n'y a que les visas qui coûtent de l'argent, si je vous entends bien.
Ah oui, il n'y a que le bain. C'est au niveau de l'administration. Il y a qu'au Belize où on a réussi à rencontrer donc une assistante du ministère de l'intérieur.
Oui, elle est en photo dans
qui a réussi à nous donner un visa gratuitement. Oui.
D'accord. Sinon, mais vous réussissez à faire la et Mexico en dépensant moins de 100 euros à la louche. Vous arrivez au Mexique en décembre 2010, et le hasard est intéressant, en pleine conférence sur le climat à Cancun. On imagine que votre histoire, elle a dû plaire là-bas.
Oui, c'était sympa. Ouais. C'était sympa d'arriver dans un lieu où beaucoup de gens volent depuis le monde entier, de pouvoir
avec
dire
un
que
mauvais
nous,
bilan carbone.
Ouais, nous, on était venus avec un bilan carbone positif et de montrer que le changement vient de chacun. Non.
Donc, vous avez raconté votre histoire.
On a raconté notre histoire. On a aussi beaucoup participé, aidé en cuisine, aidé à organiser l'événement alternatif, le Climat Forum. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez fait après cette expérience en 2010, ce grand voyage, Benjamin Lesage ?
J'ai continué à voyager en fait pendant 3 ans, en gros, sans argent aussi. J'ai rencontré Yasmine, mon épouse, qui a voyagé pendant 2 ans avec moi.
Vous l'avez rencontrée où ?
Au Mexique. Ouais, on s'est rencontrés à Puebla, elle est de Puebla. On a voyagé aux États-Unis sans argent aussi.
Elle a, il faut raconter l'histoire de Yasmine quand même. Elle a tout abandonné.
Elle était prof d'architecture. Et donc, elle avait une petite vie bien rangée, on va dire. Mais elle n'était pas forcément heureuse. Elle ne se sentait pas spécialement bien. Beaucoup de stress. Un boulot qui ne la satisfaisait pas forcément. Donc, quand elle m'a rencontré, elle a trouvé que c'était sympa. Elle est d'abord partie avec moi pendant 3 mois. Puis après, elle a trouvé ça génial. Donc, elle a arrêté son boulot et elle m'a suivi pour jusqu'à maintenant.
Il y a une partie de la démarche dont on n'a pas parlé et je pense que c'est une erreur. Donc, je la répare. C'est que vous faites aussi le pari de voyager sans manger de viande.
Oui, on est...
Vous êtes végétalien.
L'idée globale, pour la résumer, c'est qu'on essaye de trouver un style de vie qui soit le plus simple, où on ne consomme que des choses qui sont foncièrement nécessaires à notre bien-être. Donc, on est persuadé qu'on peut vivre en harmonie avec les animaux sans utiliser leurs produits, qu'on n'a pas besoin forcément d'argent, pas besoin de possession, pas besoin de boire, de fumer, de juste vivre d'eau, d'amour et de légumes qui poussent bien.
Alors, vous vivez où avec Yasmine, Benjamin, d'eau, d'amour et de légumes qui poussent bien ?
Là, on est donc chez André, quelqu'un de très aimable qui nous a accueillis donc dans ce qu'on pourrait appeler une ferme dans l'Aude.
Et vous êtes chez lui, vous vivez dans quoi ? Dans une
On a vécu pendant un temps dans une caravane. Là, on est chez lui parce que on va accoucher dans quelques jours
maintenant. Vous allez accoucher ? Vous êtes deux à accoucher, c'est ça ?
Ah ben oui, forcément, oui.
Et vous allez accoucher de quelle manière ?
Accouchement à domicile, ouais, on a envie de le faire dans une ambiance intimiste. Et oui, c'est là, il y a une autre étape qui commence. On a notre projet d'éco-village qu'on est en train de monter, qui s'appelle Eutopia.
Donc, dans Eutopia, il y a Utopia.
Voilà, Eutopia, en gros, ça veut dire aller vers l'utopie. On sait que c'est une utopie peut-être de vivre sans argent, mais on a envie de la vivre, de l'essayer, de l'expérimenter.
Mais comment vous allez faire avec un enfant en bas âge ? C'est plus compliqué ?
Non, c'est toute une question de temps. C'est, on va lui donner tout l'amour qu'on peut. On fera pousser nos légumes. On va faire des échanges. Après, Yasmine utilise un petit peu d'argent pour, voilà, s'il y a des besoins, qui sont surtout des désirs. L'argent, c'est pour les désirs. Les besoins, on peut les remplir d'une autre manière.
Mais les couches culottes, faut les acheter quand même.
Ah non, nous, on a récupéré donc des couches lavables.
Oui.
On en a plein parce que ben, il y a beaucoup de bébés en France et beaucoup d'objets, de choses qui sont achetés pour les bébés.
Tiens, autre question concrète. Pardon, je vous ai interrompu. Donc, vous vivez dans l'Aude.
Oui.
Comment vous êtes venu jusqu'à la rue Bayard, jusqu'à RTL?
Moi, j'ai vu un sac à dos se balader là.
Oui, sac à dos.
Vous avez fait du stop?
Non, j'ai pas fait du stop parce que la compagnie édition, la maison édition, me paye le train quand même.
Donc ah, d'accord.
C'est assez commode, oui.
Donc, il y a un petit bilan carbone avec le train quand même.
Ah oui, ouais.
Mais c'est pas le moyen de transport le plus polluant, le train. Cet argent, si vous gagnez de l'argent avec ce livre, ce qu'on vous souhaite, il est passionnant.
Vous
et
allez
on
nous
conseille.
Le donner, du coup.
il va servir au projet de village, des collèges.
L'idée, c'est que donc, déjà, j'offre des copies de ce livre aux personnes qui ne peuvent pas se l'acheter. Donc, s'ils m'écrivent sur mon site, eh ben, je leur envoie un livre.
C'est quoi l'adresse du site?
Sansunsou.wordpress.com.
Sansunsou.wordpress.com. Okay.
Et s'il se vend bien et qu'il y a plus d'argent, j'aimerais publier un autre livre complètement gratuit qui explique plus en détail l'économie du don, pourquoi vivre sans argent, est-ce qu'on peut tous le faire ensemble et le projet et Utopia du village.
Merci beaucoup. Sans un sou en poche, c'est publié chez Artaud.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.